Il est 2h en temps universel, 4h à Tel Aviv, 5h à Damas. Le journal sur Radio France Internationale.
Mathis Limano.
Et à la une, ces manifestations anti-Israël ce mardi en Syrie, des regroupements dans plusieurs villes du pays. Dans le viseur des protestataires, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est dit opposé à la présence de la nouvelle armée syrienne au sud de Damas, sur le sol syrien donc, mais bien trop proche de la frontière avec Israël. Ce mardi, des frappes de l'État hébreu ont fait 2 morts dans la zone. Washington et Kiev tout près d'un accord sur les minerais ukrainiens, point stratégique dans la résolution du conflit. Les deux pays se tombé d'accord. Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à la Maison Blanche. En Serbie, le pouvoir accusé de s'attaquer à des ONG qui soutiennent le mouvement anticorruption. Et puis au Canada, on s'interroge sur la destitution, sur le retrait de la nationalité canadienne à Elon Musk. Dans plusieurs villes de Syrie et devant le siège de l'ONU à Damas, des manifestants ont protesté ce mardi contre les propos de Benjamin Netanyahou. Dimanche dernier, le premier ministre israélien a menacé le nouveau pouvoir, s'opposant fermement à ce que des forces syriennes soient déployées au sud de Damas, proche de la frontière israélienne. Des propos, Guilhem Delteille, perçus comme une tentative de division du pays.
À la chute de Bachar el-Assad, les forces israéliennes ont avancé en territoire syrien et mené de nombreux raids visant les infrastructures militaire afin d'empêcher que les nouvelles autorités mettent la main sur l'arsenal de l'ancien régime. Depuis, Israël avait gardé un flou sur ses intentions jusqu'à dimanche. Devant une promotion de nouveaux officiers, Benjamin Netanyahou a précisé sa vision. « Nous n'autoriserons pas que la nouvelle armée syrienne entre dans la zone au sud de Damas », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre, « Nous exigeons la démilitarisation totale du sud de la Syrie ». Ce sont ces propos qui ont suscité la colère de plusieurs organisations syriennes du sud du pays, Adera, Soubeida et Kounetra tout d'abord, mais aussi d'autres villes comme Damas, Homs ou Latakié. Elles sont dénoncées comme des tentatives d'imposer la division sur la Syrie. Nous rejetons tout projet visant à fragmenter notre pays ou à lui porter préjudice, écrit le conseil de Dera, grande ville du sud du pays. Et les protestataires reprennent l'un des slogans de la révolution contre Bachar el-Assad. Le peuple syrien est un.
Et des frappes israéliennes se sont abattues ce mardi dans cette zone au sud de Damas, visant, dit l'État hébreu, des dépôts d'armes, une forme d'avertissement qui a coûté la vie à au moins 2 personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et en parallèle de ces événements, Ahmad al-Shara salue une nouvelle phase historique. Le président syrien par intérim lors de la conférence de dialogue national qui s'est ouverte ce mardi à Damas. Il s'est engagé devant les participants à garantir le monopole de l'État sur les armes, insistant sur la nécessité de désarmer les différentes factions et les intégrer à la nouvelle armée syrienne. Cette conférence a été marquée par l'absence des Kurdes et de leurs forces, pas conviées par le pouvoir. Après plusieurs passes d'armes entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, l'Ukraine et les États-Unis sur le point de sceller un accord sur la question des minerais ukrainiens. Depuis plusieurs semaines, le président américain exigeait que Kiev cède ses ressources minières afin de compenser les milliards de dollars d'aide versés par les États-Unis. De son côté, le dirigeant ukrainien espérait de Washington des garanties fermes en termes de sécurité. Les deux camps auraient fini par trouver une solution et pourraient signer l'accord dès ce vendredi, d'après différents médias. Mais avant Volodymyr Zelensky, c'est le premier ministre britannique qui est attendu à la Maison Blanche. Keir Starmer s'envolera jeudi pour Washington afin de convaincre Donald Trump que des garanties de sécurité sont nécessaires à tout accord de cessez-le-feu. Et pour montrer sa bonne volonté, le résident de Downing Street a annoncé la plus grande augmentation des dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide, Nicolas Roca.
Le Royaume-Uni s'engage pour que l'Europe offre des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de paix négociée avec la Russie. Voici le message que Keir Starmer emmène dans ses bagages pour Washington. Les dépenses de défense doivent atteindre 2,5% du PIB britannique d'ici 2027 et le leader travailliste espère même arriver à 3% en 2029. De belles promesses, mais encore loin des 5% que Donald Trump demandait aux pays de l'OTAN en janvier dernier. Cette hausse des dépenses militaires, bien que mesurée, a un coût. Keir Starmer a annoncé devant les membres de la Chambre des communes que pour financer cet effort militaire, l'aide internationale au développement sera abaissée. Le Premier ministre a aussi appelé les autres Européens à, je cite, « faire davantage pour notre propre défense ». Le leader travailliste doit présenter à Donald Trump son plan de force de réassurance, dont Londres et Paris sont les fers de lance, à savoir des milliers de soldats européens sur le terrain pour protéger Kiev en cas d'un arrêt des combats. Une option séduisante pour Donald Trump qui s'est dit totalement favorable au déploiement de troupes européennes en Ukraine.
Nicolas Rocca. Les plus de 600 prisonniers palestiniens finalement bientôt libérés, annoncent des médiateurs réunis au Caire. Ils devaient être relâchés samedi dernier en échange des 4 corps d'otages rendus à Israël. Par ailleurs, des responsables israéliens ont affirmé dimanche que l'État hébreu envisageait une prolongation de la première phase de la trêve. Objectif, ramener les 63 otages vivants et morts encore dans la bande de Gaza. RFI en Serbie, assiste-t-on à une simple coopération judiciaire internationale ou à un coup du pouvoir ? Ce mardi, à Belgrade, la police serbe a perquisitionné 2 importantes ONG à la recherche de preuves de malversations financières. Des ONG qui soutiennent le très populaire mouvement anticorruption qui dure depuis maintenant presque 4 mois en Serbie, Laurent Rouy.
Ce matin à Belgrade, la police a perquisitionné les locaux des ONG Initiative Citoyenne et du Centre pour la Recherche, la Transparence et la Responsabilité. Ces 2 organisations qui documentent les abus des institutions publiques avaient pris position en faveur du large mouvement anticorruption qui secoue la Serbie. Les ONG concernées dénoncent une attaque du régime contre elles. Plusieurs partis politiques d'opposition fustigent de leur côté une vengeance du président Aleksandar Vučić contre la société civile. Plusieurs organisations non gouvernementales de Croatie, de Bosnie et de Serbie décrivent ces actions policières comme une tentative d'intimidation. Le procureur, lui, dit répondre à une demande du département américain de la justice qui chercherait à savoir comment les subventions de l'agence USAID, suspendues par Donald Trump, ont été dépensées. Beaucoup en Serbie, y compris dans les ministères, ont bénéficié de ces aides américaines. Et il est pour le moins étonnant que des enquêteurs s'en prennent aussi spectaculairement à la société civile dans le contexte actuel. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
RFI, 23h07 à Santiago. Le gouvernement chilien déclare l'état d'urgence et un couvre-feu dans la capitale. Depuis plusieurs heures, une grande partie du pays est plongée dans le noir. La faute à une panne de courant massive. Le métro de la capitale a dû être évacué. Le service suspendu. Hôpitaux et prisons fonctionnent normalement grâce à des générateurs, rassurent les autorités qui espèrent un retour à la normale dans les prochaines heures. Manuel Valls est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Top départ pour des négociations entre le ministre français des Outre-mer et les représentants locaux. L'ensemble des formations politiques, dont les indépendantistes, autour de la table. Sans compromis politique, pas d'avenir économique. Sans dialogue, pas de paix durable, a insisté Manuel Valls. Ces négociations font suite aux violentes tensions ethniques ravivées en 2024 entre populations kanak et européennes. Elon Musk, le conseiller du président Trump, chargé des coupes budgétaires ciblées par une pétition parlementaire au Canada pour lui retirer sa nationalité canadienne. Cette initiative a récolté à 7 heures plus de 23 000 signatures. Elle devrait être présentée très prochainement à la Chambre des communes à Himlipold.
C'est le député néo-démocrate Charlie Angus qui l'a lancé jeudi dernier à l'initiative de l'auteur de science-fiction canadien Kyle Reed. Cette pétition accuse Elon Musk d'agir contre les intérêts du Canada. En cause, son alignement avec le président américain Donald Trump. Les signataires demandent donc au premier ministre Justin Trudeau de retirer à Elon Musk son passeport canadien et de révoquer sa citoyenneté. Car si l'homme le plus riche du monde est né en Afrique du Sud, il possède aussi, grâce à sa mère, la nationalité canadienne. Donald Trump, lui, a provoqué la colère des Canadiens en menaçant d'imposer de lourdes taxes sur les produits venus du Canada et en suggérant ouvertement une annexion du pays. Pour être présenté aux parlementaires, une pétition doit recueillir au moins 500 signatures, un cap déjà largement franchi. Mais son examen pourrait être perturbé par l'organisation d'élections générales avant la reprise des travaux parlementaires prévue fin mars. La décision finale appartient au Premier ministre Justin Trudeau.
Depuis sa chambre d'hôpital, le pape s'est remis au travail. François a signé des décrets de canonisation, dit le Vatican, qui précise que son état de santé reste critique, mais ne se dégrade plus. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie. Et puis, on connaît le départ du Tour de France 2026. Un contre-la-montre au cœur de Barcelone ont annoncé à les organisateurs ce mardi depuis la capitale catalane. Ce sera la première fois depuis 2019 à Bruxelles et la première fois de l'histoire pour une première étape qu'un chrono collectif sera au menu du Tour. Ce journal touche à sa fin. Les voisins et les voisines sur RFI, c'est maintenant avec 8 milliards de voisins. Il est 3h10 à Paris, 1 heure de moins en temps universel.